Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, ce fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse de divines consolations pour le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Avant de commencer ce cours, deux petites notes, une petite note plutôt concernant les retraites. Donc j'ai eu une annulation, ce qui fait que j'ai une place encore pour la retraite du mois de juin, du 6 juin au 11 juin. En fait, donc j'ai donc des places pour toutes les retraites, chacune des retraites sauf la première, la retraite de Semaine Sainte, du 11 avril au 17 avril, c'est là que je suis plein. Par contre, j'ai des places pour toutes les autres retraites. On voit encore une ou deux places pour surtout les retraites de mai, deuxième retraite d'avril, une place pour la retraite du mois de juin, des places pour les retraites du mois de septembre et d'octobre. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent sur Internet qui pensent un peu à, qui pensent un petit peu à, aux retraites. N'attendez pas le dernier moment, s'il vous plaît, pour vous inscrire, pour que je puisse m'organiser, parce que je loue un gîte pour ces retraites. J'ai donc besoin de savoir à l'avance combien de personnes viennent. Voilà, nous reprenons les commentaires des Pères de l'Église sur le chapitre 6 de Saint Jean, donc sur le polycopier qui contient les commentaires des Pères des chapitres 6 à 10. Nous en sommes à la page 6, versets 28 et à 34 du chapitre 6 de Saint Jean. Voilà le texte. Et lui dire donc, que ferons-nous pour faire les œuvres de Dieu ? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et lui dire, quel miracle faites-vous donc, afin que nous voyions et que nous croyions en vous. Que faites-vous? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, ainsi qu'il est écrit, il leur a donné à manger le pain du ciel. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit donc, Seigneur, donnez-nous toujours ce pain. Donc ici, notre Seigneur Jésus-Christ fait des allusions très nettes au sacrement de la Sainte Eucharistie, ce pain du ciel dont il va parler et qu'il va comparer à la manne du désert, donc le pain terrestre. Pain terrestre, la manne était ce produit miraculeux qui avait été envoyé par Dieu pour nourrir les Hébreux dans le désert, pendant les 40 ans de pérégrination dans le désert. Cette manne annonçait évidemment une manne céleste, à savoir cette fois-ci la Sainte Eucharistie. Vous savez que beaucoup de disciples, en entendant ces paroles, en comprenant que notre Seigneur Jésus-Christ va donner sa chair à manger, vont quitter notre Seigneur Jésus-Christ et vont dire « Cette parole est dure et qui peut l'écouter ?» Et donc un certain nombre de disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui à la suite de ces annonces de notre Seigneur Jésus-Christ pour préparer les âmes à accepter le mystère de la Sainte Eucharistie. On verra ça à la fin du chapitre 6 de Saint Jean, au verset, c'est au verset 65, 61, 65 et 67, nous verrons ça plus tard. Encore une fois, notre Seigneur Jésus-Christ va partir de choses temporelles que ses auditeurs comprennent bien. Ils savent très bien ce que c'est que du pain est nécessaire pour la vie du corps. Et notre Seigneur va partir de ce pain terrestre pour monter à un pain céleste nécessaire pour la vie de l'âme. De même que le corps sans nourriture terrestre ne peut pas survivre, de la même façon, l'âme sans nourriture céleste ne peut pas non plus survivre. Donc, lorsque les apôtres, justement les disciples demandent « Que ferons-nous pour faire les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répond « L'œuvre de Dieu est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Faire attention à tous ces textes. On a tendance à couper un petit peu les textes de notre Seigneur Jésus-Christ, un peu comme les rodelles de saucisson, et utiliser chaque texte indépendant de l'autre. Donc il faut remettre tous les textes ensemble. Parce que si je lis cette phrase « L'œuvre de Dieu est que vous croyez en celui qui l'a envoyé », on pourrait conclure « Donc la foi seule est nécessaire. L'homme est sauvé par la foi. » Il faut mettre ça en parallèle avec d'autres textes qui disent « Ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. » Donc la foi est nécessaire, mais la foi sans la charité n'est rien. C'est là où on retrouve les textes, le fameux texte de Saint Paul, 1 Corinthiens chapitre 13. « Si vous n'avez pas la charité, vous n'êtes rien. » Donc la foi est la base de la charité. Mais la foi sans la charité est une foi morte. Et une foi informe, c'est-à-dire une foi qui est en quelque sorte un cadavre de foi. Croire en Jésus-Christ, c'est donc l'aimer en croyant. Et aimer notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Aimer notre Seigneur Jésus-Christ, ça veut tout simplement dire de suivre ses commandements. Et suivre les commandements de Dieu, c'est la vertu de charité. Donc, de croire que notre Seigneur Jésus-Christ a bien donné 10 commandements, mais d'en faire qu'à sa tête et refuser de suivre ses commandements, c'est d'avoir la foi sans la charité. La foi sans la charité est une foi morte. Attention. Donc il faut aimer notre Seigneur Jésus-Christ en croyant, et donc unir la foi à l'amour, c'est-à-dire s'unir à lui par la foi et faire partie du corps dont il est le chef. Donc on s'unit à notre Seigneur Jésus-Christ par la foi, mais aussi à l'amour de Dieu. Et l'amour, c'est la charité. La charité, c'est quoi? Attention, encore une fois, ne nous laissons pas déformer par les idées modernes qui ne parlent que d'une charité naturelle. Il faut unir la foi et la charité, donc il faut aider les pauvres. Ce n'est pas ça la charité. La charité, c'est aimer Dieu et aimer le prochain comme nous-mêmes pour l'amour de Dieu. C'est aimer Dieu et aimer le prochain pour monter le prochain vers Dieu. Aimer Dieu, ça veut dire quoi? Aimer Dieu, c'est suivre ses commandements. Imaginez un petit garçon qui dit à sa maman, c'est l'exemple que je donne tout le temps, imaginez un petit garçon qui dit à sa maman « Je vous aime beaucoup ». Je vous aime, je vous aime, je vous aime, et qui en fait qu'à sa tête à longueur de journée, qui n'arrête pas de désobéir à sa mère. La mère aura le droit de dire à l'enfant, vous mentez. Tu mens, parce que tu me racontes n'importe quoi, tu prétends m'aimer, mais par ta façon de te comporter, tu prouves que cet amour n'est pas un amour véritable. En fait, tu mens, tu ne me mènes pas. Parce que si tu m'aimais, tu obéirais à ta mère. Le fait que tu refuses d'obéir à ta mère prouve que ton amour est un amour superficiel, c'est pas un véritable amour. C'est la même chose avec notre Seigneur Jésus-Christ. Ça sert à quoi dire au bon Dieu qu'on l'aime si dans la pratique on en fait qu'à sa tête avec les commandements? C'est très très fréquent. Les gens qui nous disent, monsieur l'abbé, j'aime le bon Dieu de tout mon cœur. Ah oui? Et puis quand on discute un peu avec eux, on commence un petit peu à interroger, à poser quelques petites questions pour préparer un peu les confessions générales, par exemple pendant les retraites, on se rend compte à ce moment-là, ben oui, j'aime le bon Dieu. Mais dites donc, la femme avec laquelle vous vivez là, c'est votre épouse légitime? Et puis on se rend compte, ben non, c'est pas mon épouse légitime, je l'ai empruntée à quelqu'un, mon épouse légitime. En fait, c'est l'épouse légitime de quelqu'un d'autre. Bon, et monsieur, dame, vivre en concubinage, je ne suis plus complet. Donc comment peut-on prétendre aimer Dieu si je suis dans concubinage? Alors que Dieu a dit expressément, œuvre de chair ne désirera qu'en mariage seulement, donc en mariage légitime seulement. Vous voyez, donc attention à cette phrase. Aimer Dieu en croyant, c'est unir la foi à l'amour, donc unir la foi à la charité, c'est s'unir à lui par la foi et faire partie du corps dont il est le chef. C'est donc la foi que Dieu exige de nous et qui opère par la charité. Donc la foi sans la charité est une foi morte. C'est le texte de Saint Jacques. Donc, le Fils de Dieu fait homme et par-dessus tout, objet d'étonnement pour les Juifs qui se demandaient ainsi les uns les autres, Qu'est-ce que cela veut dire? Comment le Fils de Dieu peut-il être le Fils de l'homme? Comment deux natures ne forment-elles qu'une seule personne? Vous voyez, on voit très bien que dans ces textes assez complexes de notre Seigneur Jésus-Christ, mais les apôtres même ne comprennent pas tout, les disciples encore moins, et la foule encore moins. Donc, rappelez-vous qu'il y a en notre Seigneur Jésus-Christ une seule personne, une hypostase, mais deux natures. Deux natures humaines et une hypostase. Dans la Sainte Trinité, il y a trois hypostases. L'hypostase du Père, l'hypostase du Fils, l'hypostase du Saint-Esprit, dans une union de substances, les trois personnes sont consubstantielles. Donc lorsque notre Seigneur Jésus-Christ parle du Fils de l'homme, quand il dit le Fils de l'homme et le Fils de Dieu, donc il parle le Fils de l'homme, c'est l'humanité, le Fils de Dieu, c'est la divinité. Donc notre Seigneur Jésus-Christ amène, si vous voulez, lentement les gens qui l'écoutent à accepter le mystère de la Sainte Eucharistie. On s'en très bien compte qu'il y va doucement pour expliquer ce grand mystère, parce que, évidemment, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ va dire le soir du Jeudi Saint, ceci est mon corps, ceci est mon sang, eh bien, ça va être un scandale pour certains qui vont se demander si notre Seigneur Jésus-Christ nous demande de pratiquer littéralement l'anthropophagie. Et on voit très bien que notre Seigneur Jésus-Christ va préparer ses apôtres pendant une longue période de temps, mais que l'accomplissement du mystère de la Sainte Eucharistie ne va s'opérer qu'à la fin de la vie terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ, juste avant sa mort. Le soir du Jeudi Saint, quelques heures avant d'être livré aux Juifs par les Juifs eux-mêmes et aussi par les apôtres qui vont tous l'abandonner, eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ va instituer la Sainte Eucharistie, mais il ne va pas l'instituer tout de suite, mais il en parle longtemps avant. Donc il préfère son propre pain, la Sainte Eucharistie, à la manne mosaïque. Donc, Moïse n'était qu'un homme et ne donna la manne qu'à Israël, aux Juifs dans le désert, alors que Dieu le Père donne ce pain eucharistique au monde entier. Donc le pain eucharistique est un pain super substantiel, c'est-à-dire un pain au-dessus du pain naturel. La manne n'était pas le pain du ciel, en bas de la page 6, mais tombait d'atmosphère comme la rosée ou la grêle. Les mots « le pain du ciel » ne sont pas là, n'ont là qu'une figure littéraire, disent les pères, comme lorsqu'on dit « les oiseaux du ciel » parce qu'ils volent dans les nuées. Mais le pain eucharistique vient réellement des cieux les plus hauts, à savoir du sein même de Dieu le Père. La manne n'était donc que l'ombre de ce pain céleste et divin, dit saint Jean Chrysostome. Donc notre Seigneur Jésus-Christ amène lentement la foi en la Sainte Eucharistie, et il va expliquer que la substance du pain, qui est une espèce de manne. La manne était quelque chose de naturel. Le pain dont il parle au début est un pain naturel. Et cette substance du pain, qui correspond à la substance de la manne, va être transformée en une autre substance, la substance du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'on appelle ce miracle la transsubstantiation, parce que la substance du pain disparaît pour laisser place à la substance du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. De même que la substance du vin va laisser place à la substance du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on appelle la force du sacrement. Par la force du sacrement de la Sainte Eucharistie, il y a un changement de substance. Mais comme notre Seigneur Jésus-Christ a maintenant un corps glorieux au ciel, on ne peut plus séparer son corps et son sang, ce n'est pas possible. Donc, lorsqu'on reçoit le corps du bon Dieu, le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, par la Sainte Eucharistie, on reçoit avec le sacrement, on reçoit également par concomitance, c'est l'expression utilisée par saint Thomas d'Aquin, on reçoit par concomitance aussi le sang, l'âme et la divinité, parce qu'on ne peut pas séparer ces quatre choses. Le corps, le sang, l'âme et la divinité sont dans l'hostie consacrée, sont en l'hostie consacrée. C'est la même chose avec le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on reçoit le prêtre communié au précieux sang, il ne reçoit pas simplement le sang, il reçoit aussi le corps, l'âme et la divinité. Donc, et tout ça est annoncé par la manne. Donc, vous voyez, il y a trois degrés. Le premier degré, c'est le pain naturel. Donc, on voit très bien, c'est pas pour rien que notre Seigneur Jésus-Christ explique ces choses-là juste après la multiplication des pains. Notre Seigneur Jésus-Christ vient de nourrir 5000 personnes avec quelques pains. Et donc, c'est la première étape, le pain naturel. C'est-à-dire le fruit du blé, le blé écrasé, transformé en farine, et qui va être mélangé à l'eau, puis cuit sous la cendre, cuit dans le feu, pour donner le pain. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est un peu plus haut, parce que le pain naturel est quelque chose de physique, n'est pas quelque chose de miraculeux en tant que tel. Par contre, la deuxième étape, c'est la manne. La manne est quelque chose de naturel et en même temps quelque chose de surnaturel, dans le sens que la façon dont la manne a été donnée aux Hébreux est quelque chose de miraculeux. Alors, quelle était exactement la substance de la manne, c'est un peu un mystère. C'est pour cela que lorsqu'ils ont vu cette manne pour la première fois, les Hébreux se sont posé la question, c'est quoi ça? En hébreu, ça se dit mané. Donc, le nom est resté la manne, parce qu'ils se posaient la question, qu'est-ce que c'était? Ils pensaient que c'était une espèce de graine de coriandre. Donc, ils ne savaient pas très bien ce que c'était, mais c'est encore, si vous voulez, quelque chose de naturel. C'est comme quand Dieu donne à Moïse le pouvoir de frapper le rocher en plein désert, et du rocher frappé par Moïse va sortir l'eau. L'eau sortie du rocher est quelque chose de naturel. Par contre, la façon dont cette eau sort du rocher, un rocher ne donne pas d'eau, ça c'est surnaturel. Mais c'est pareil pour la manne. La manne est quelque chose, si vous voulez, en soi, c'est quelque chose de physique, de naturel, mais la façon dont c'est donné, c'est quelque chose de surnaturel. Donc ça c'est la première étape, le pain normal qu'on mange tous les jours. Deuxième étape, la manne. Troisième étape, le pain eucharistique, qui est cette fois-ci le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc notre Seigneur Jésus-Christ part de choses naturelles, monte un peu un degré avec la manne, et monte enfin au sommet de l'édifice avec le pain eucharistique, donc qui contient réellement, substantiellement, le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un grand mystère, parce que cette transsubstantiation permet justement l'accomplissement du sacrifice de la messe. La messe est un sacrifice. Et pour qu'il y ait sacrifice, il faut qu'il y ait séparation entre le corps et le sang de notre Seigneur. Sinon, il n'y a pas sacrifice. Or, notre Seigneur Jésus-Christ a un corps glorieux, avec les privilèges des corps glorieux. Donc, comme il a l'impassibilité, il a l'agilité, il a la subtilité, il a la clarté, et donc, il ne peut plus. Il peut y avoir une séparation physique entre son corps et son sang, c'est impossible. Pourtant, la messe est un sacrifice. Pour que la messe soit un sacrifice, il faut donc que quelque chose arrive pour permettre une certaine séparation, qu'on appelle une séparation sacramentelle, entre le corps et le sang, qui ne peut pas être une séparation physique, et qui sera une séparation sacramentelle, d'où la double consécration. Voilà pourquoi il y a deux consécrations. Consécration du pain, puis consécration du vin. Le pain se transforme au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, le vin se transforme au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, donc il y a une séparation entre le corps et le sang, il y a donc véritablement un sacrifice. Mais cette séparation n'est pas une séparation physique, c'est une séparation sacramentelle, par la force du sacrement. C'est là un grand, grand mystère. C'est pour ça que beaucoup de gens n'ont pas accepté ce mystère. Il va y avoir toutes les grandes hérésies après, au temps de Béranger, les grandes hérésies eucharistiques. Donc d'abord les hérésies trinitaires, tout à fait au début de l'Église, avec Arius et ses petits copains qui vont nier la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Après vont arriver les hérésies sur la Sainte Eucharistie, justement parce que beaucoup de gens vont avoir du mal à reconnaître que notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment présent avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Donc dans le monde moderne, on voit très bien, dans l'Église de Vatican II, dans la pratique, ils ne croient plus à la Sainte Eucharistie. Pour eux, la messe, c'est simplement un repas pour faire mémoire de ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait il y a 2000 ans. Est-ce que la messe est offerte pour faire mémoire? La réponse est oui, attention. Mais le fruit premier de la messe, la fin première de la messe, n'est pas le fait que cette cérémonie est faite pour faire mémoire de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que la messe est aussi pour faire mémoire. C'est pour ça que le texte dit, dans le texte du canon, la nuit où il fut livré, Dieu pris du pain, etc. Et ensuite, le ton change et ça devient une action positive. Ceci est mon corps. Au début, c'est l'imparfait qui est utilisé, puis le présent. Donc il y a véritablement présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le fruit premier de la messe n'est pas de faire mémoire, le fruit premier de la messe, ce qu'on appelle la fin propitiatoire, notre Seigneur Jésus-Christ utilise le sacrifice de la messe comme réparation pour nos péchés. Alors ça, évidemment, ça s'oppose en plein au protestantisme, au modernisme. Les modernistes vont dire, mais notre Seigneur Jésus-Christ est déjà mort pour nous une bonne fois pour toutes, donc il n'y a pas besoin de renouveler son sacrifice, puisque le sacrifice est complet. Le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ est complet, puisque c'est un sacrifice parfait. Donc il n'y a pas besoin de le renouveler. Ben oui, il y a besoin de le renouveler, parce que malheureusement, le péché, lui, ne s'est pas arrêté.
Pas parce que notre Seigneur Jésus qui est mort sur la croix le vendredi saint, que ça veut dire que les apôtres ont arrêté que les hommes ont arrêté de pécher, malheureusement. Et donc, bien se rappeler ces choses-là, qui sont déjà en partie annoncées par notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, il va terminer ses explications dans le sein du Collège apostolique, le jeudi saint au soir, lorsqu'il va instituer la Sainte Eucharistie, et puis après sa résurrection, lorsqu'il va rester avec ses disciples de façon pas permanente, mais il va être souvent avec eux entre la résurrection et l'ascension, 40 jours après Pâques, là, il va leur parler du royaume des cieux, disent les actes des apôtres, et il va leur expliquer, en fond, en long, en large et en travers, le mystère de la Sainte Eucharistie. En page 7, donc, autre texte des Pères, la manne ne nourrissait que le corps pour un temps, alors que le pain du Christ nourrit et fortifie le corps et l'âme pour toujours. Certes, la Sainte Eucharistie ne supprime pas la mort corporelle pour ceux qui communient dévotement, mais elle procure la résurrection de la mort et la vie éternelle qui suivra, car la résurrection est l'effet de la Sainte Eucharistie. Donc, c'est pour ça que la Sainte Eucharistie ne peut être reçue qu'en état de grâce. Attention, bien se rappeler les conditions pour recevoir la Sainte Eucharistie. Il faut, la plus importante étant d'être en état de grâce. Recevoir la Sainte Eucharistie, la Sainte Communion en état de péché mortel, c'est le pire des sacrilèges. C'est vraiment comme si je prenais des hosties consacrées, j'allais les jeter dans la boue pour les pourceaux. Vous voyez ? Donc la Sainte Eucharistie ne supprime pas la mort corporelle, mais supprime la mort éternelle, dans le sens que la Sainte Eucharistie élève l'âme déjà jusqu'au ciel. Donc les anciens disaient que la Sainte Eucharistie transforme l'âme en un petit bout de paradis. Et c'est exactement ça. La seule différence qui est essentielle, c'est que le paradis qui est présent dans l'âme après la Sainte Eucharistie, après avoir reçu la Sainte Eucharistie, pour quelqu'un qui communie en état de grâce, son âme se transforme en paradis, mais ce paradis n'est pas un paradis éternel, c'est un paradis qui est temporel, qui va durer dans le temps, simplement pour un espace de temps. En fait, le paradis va durer pendant que les espèces eucharistiques sont encore dans l'individu, mais dès que les espèces eucharistiques disparaissent, au bout d'une dizaine de minutes à peu près, peut-être même moins, les espèces eucharistiques disparaissent, donc la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ disparaît, le paradis disparaît en strictement parlant, et il va rester les grâces créées de la Sainte Eucharistie. Moïse n'a ni formé ni donné la manne, mais Dieu la procura par les anges à la prière de Moïse. Mais le Christ lui-même forme et donne vraiment le pain de la Sainte Eucharistie. Par sa toute-puissance, il transsubstancie et transforme le pain et le vin, son corps et son sang, avec sa divine essence. C'est un grand, grand mystère. Donc, pour ceux qui ont besoin un petit peu de réviser, n'hésitez pas à retourner sur les cours de catéchisme. Vous allez sur le site d'Anne-Marie, vous avez tous les cours de catéchisme, entre autres la partie sur la Sainte Eucharistie qui est assez complète, j'espère. Plus, vous avez aussi des tas de choses dans la somme théologique de Saint Thomas d'Aquin sur les sacrements. La partie sur le sacrement de la Sainte Eucharistie à la fin de la somme. Vous avez aussi ces cours sur le site d'Anne-Marie. Donc n'hésitez pas à vous référer à ces cours si c'est nécessaire. Je vous rappelle que je considère, en donnant ce cours d'exégèse, explication des saints évangiles à partir des pères de l'Église, que le catéchisme est su, parce que je n'ai pas le temps de redonner un cours catéchisme complet à chaque fois qu'on touche un point de catéchisme. Donc rappelez-vous les quatre fins de la messe, la fin propitiatoire, la plus importante, la messe est offerte en réparation pour nos péchés, pour nous rendre Dieu propice, en fin d'adoration, la fin latrotique, mais aussi enfin eucharistique, enfin l'action de grâce, et enfin impétratoire, la fin impétratoire, c'est-à-dire la Sainte Messe est aussi utilisée par Dieu, par nous, pour demander les grâces dont on a besoin. Et donc il faut utiliser cette Sainte Eucharistie, c'est pour ça qu'il faut que les fidèles fassent attention, justement, à bien utiliser ce temps après la communion, à faire une bonne action de grâce après la Messe. C'est une chose qui m'a toujours frappé dans l'Église moderne de Vatican II, il n'y a aucune action de grâce après la messe, il n'existe pas. Sitôt que leur messe, entre guillemets, est terminée, pouf, tout le monde parle comme si c'était sur une place de marché. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas compris du tout. Au contraire, un catholique qui vient de recevoir la Sainte Eucharistie doit faire très attention à garder l'esprit de l'Église catholique et faire une bonne action de grâce après la messe. Parce qu'ils viennent de recevoir notre Seigneur Jésus-Christ avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Nous passons maintenant au verset 35 à 40 du chapitre 6 de Saint Jean. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui croit à moi n'aura pas faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Mais je vous l'ai dit, vous avez vu et vous ne croyez pas. Ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Et celui qui vient à moi, je ne le jetterai pas dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Oh, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père qui m'a envoyé, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi-même, je le ressusciterai au dernier jour. Donc on voit ici une chose importante, la double volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il dit, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, beaucoup de gens ne comprennent pas cette phrase en disant, mais donc, notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas Dieu, puisqu'il parle ici de la volonté de celui qui m'a envoyé. Celui qui m'a envoyé, c'est Dieu le Père. Mais la volonté de Dieu le Père est la même que la volonté de Dieu le Fils. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, quand il dit qu'il n'est pas sur terre pour faire sa volonté, il parle de sa volonté humaine. N'oubliez pas qu'il y a une double volonté à notre Seigneur Jésus-Christ, une double intelligence. C'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ a pu dire sur la croix avant de mourir, « mon Père, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» C'est inconcevable, inexplicable, sans comprendre qu'il y a une double volonté dans notre Seigneur Jésus-Christ, une double intelligence, parce qu'il y a une double nature en lui. Comme il est à la fois homme et Dieu, il y a une volonté humaine, une volonté divine. Comme il est homme et Dieu, il y a aussi une double intelligence, une intelligence humaine, une intelligence divine, mais la volonté humaine, notre Seigneur Jésus-Christ est parfaitement soumise à la volonté divine et l'intelligence humaine de notre Seigneur Jésus-Christ est parfaitement soumise également à l'intelligence divine. Donc tel est donc le sens de ces paroles. Je ne suis point venu faire autre chose que ce que veut le Père, je n'ai point d'autre volonté que la sienne, car tout ce qui est à mon Père est également à moi. Ce qu'il réserve de dire à la fin de son discours, car il voile de temps en temps les vérités trop élevées pour l'intelligence de ses auditeurs. C'est-à-dire que notre Seigneur parle encore là, très souvent en parabole. Il monte les gens lentement, du pain physique à la manne au pain eucharistique. Mais il se rend bien compte que beaucoup de gens ne sont pas encore prêts à accepter toutes ces vérités, et donc il va les expliquer lentement. Sont certainement les textes les plus élevés de Saint Jean. Je vous l'ai dit, c'est une des raisons pour laquelle beaucoup d'hérétiques pensaient, à tort, que ces textes n'avaient pas été écrits par Saint Jean parce qu'ils correspondaient à une élévation théologique telle qu'il fallait laisser du temps pour que cette élévation théologique puisse s'exprimer et que donc ces textes ont été écrits beaucoup plus tardivement, ce qui est faux. Et de fois que ces textes ont été écrits par l'apôtre Saint Jean, or l'apôtre Saint Jean est mort à la fin du 1er siècle ou au début du 2e siècle, et donc ces textes, les textes de l'Évangile, ont été écrits tout à fait à la fin du 1er siècle. Même si on n'est pas exactement certain de la date exacte de la composition de l'évangile selon saint Jean, il est de foi que c'est saint Jean qui a écrit toutes les et chacune des paroles de l'évangile. Donc on ne peut pas dire que cette élévation théologique est telle qu'elle ne peut pas, ce texte n'a pas pu avoir été écrit par saint Jean. C'est faux. C'est saint Jean qui l'a écrit. De même qu'il y a des modernistes qui disent que le dernier chapitre de saint Jean, on verra ça plus tard, le dernier chapitre de saint Jean, c'est le chapitre 21. Le dernier chapitre de Saint Jean a été écrit après l'évangile lui-même, par des disciples de Saint Jean. C'est faux. La foi catholique nous enseigne que chaque phrase, chaque lettre, chaque mot de l'évangile de Saint Jean a été écrit véritablement par l'apôtre Saint Jean, le dernier des apôtres. C'est pour ça qu'on dit aussi que le dépôt de la foi est achevé et clos à la mort de Saint Jean, parce que Saint Jean, le dernier des apôtres, a mouru. Donc, voyons un petit peu ce texte. Donc, je vous relis ce verset, verset 35 à 40. Il faut vraiment se les mettre, il faut relire souvent ces versets. « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura pas faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Et celui qui vient à moi, je ne le jetterai pas dehors. » Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. La volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de ce qu'il m'a donné, mais que je ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père qui m'a envoyé, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui la vie éternelle, et moi-même, je le ressusciterai au dernier jour. Donc, tel est le sens de ces paroles. Je ne suis point venu faire autre chose que ce que veut le Père, car tout ce qui est à mon Père est également à moi. Donc, encore une fois, on voit très bien dans ce texte que notre Seigneur Jésus-Christ, si vous voulez, voile certaines vérités, parce qu'il se rend très bien compte que ses disciples, ses apôtres, ne sont pas encore capables de les comprendre. Ici, au contraire, celui qui voit le Fils et qui croit en lui, on est à la page 7, il ne dit point qu'il croit dans le Père, parce que croire dans le Fils et croire dans le Père sont une seule et même chose. Pourquoi ? Parce que le Fils est Dieu, le Père est Dieu. Car de même que le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Ainsi, celui qui voit le Fils et qui croit en lui a la vie éternelle, en arrivant par la foi à la vie qui est comme la première résurrection. Donc la foi monte notre intelligence, si vous voulez, jusqu'au niveau de la Sainte Trinité, qui est incompréhensible ici-bas. Personne ne peut comprendre la Sainte Trinité ici-bas. On peut s'arrêter à la porte, si vous voulez, on ne peut pas rentrer dans la Sainte Trinité parce que c'est un mystère beaucoup trop grand pour nous. Même pour quelqu'un qui a une foi très forte, la Sainte Trinité reste un mystère. Rappelez-vous les grands mystères de la foi catholique, l'incarnation, la rédemption, la Sainte Trinité, et ces mystères demeurent, même pour quelqu'un qui a une foi très forte, même pour quelqu'un qui a une foi illuminée par la charité. Parce que si la Sainte Trinité pouvait être comprise parfaitement par nous, à ce moment-là, le mystère disparaîtrait. Or, le mystère ne disparaît pas, il reste là. La foi est donc nécessaire, au moins ici-bas. Une fois qu'on sera au ciel, on sera dans le sein de la Sainte Trinité, donc on n'aura plus besoin de foi. C'est pour ça que la foi et l'espérance vont disparaître au ciel. La foi et l'espérance sont nécessaires ici-bas pour avoir la charité. On ne peut pas avoir la charité sans la foi et l'espérance. Une fois qu'on sera au ciel, on n'aura plus besoin ni de la foi ni de l'espérance parce qu'on sera dans le sein même de la Sainte Trinité et qu'on verra notre Seigneur Jésus-Christ d'une certaine façon avec nos propres yeux. Même si on ne pourra pas comprendre notre Seigneur Jésus-Christ tel qu'il se comprend lui-même, c'est absolument évident. Seul Dieu peut faire ça. Vous voyez ? Donc, notre Seigneur Jésus-Christ déjà explique que celui qui voit le Fils voit le Père, celui qui voit le Père voit le Fils. Donc il n'y a pas de distinction à faire dans la substance du Père et du Fils. Il y a une distinction à faire au niveau des hypostases. La personne du Père n'est pas la personne du Fils. Après ça, il faut faire attention dans les termes qu'on utilise parfois. Exemple, on pourrait pas dire, strictement parlant, que Dieu est mort pour moi sur la croix. Parce que Dieu ne peut pas mourir, il est éternel. Je peux dire que notre Seigneur Jésus-Christ est mort pour moi sur la croix. Notre Seigneur Jésus-Christ est mort pour moi sur la croix, le Vendredi Saint, dans son humanité. Il n'a pas pu mourir dans sa divinité. C'est pour ça que notre Seigneur fait bien cette distinction entre sa volonté et la volonté de celui qui l'a envoyé au verset 38. Donc, le Christ dans la Sainte Eucharistie, commentaire des Pères, le Christ dans la Sainte Eucharistie est justement appelé pain. En consacrant le pain, il le transforme en son corps sous les apparences du pain, la substance disparaît, remplacée par celle du Christ. C'est ce qu'on appelle la transsubstantiation, changement de substance. Bon. Alors les modernes vont dire que c'est des termes très, trop compliqués, il ne faut plus les utiliser. Non, mais, les gens sont parfaitement capables de comprendre le mot transsubstantiation une fois qu'on a expliqué que c'est un changement de substance. La substance du pain disparaît et remplacée par la substance du corps de notre Seigneur Jésus-Christ, la substance du vin disparaît et est remplacée par la substance du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui reste ? Est-ce qu'il y a des choses qui demeurent dans la transsubstantiation ? Oui ! Qu'est-ce qui demeure ? Les accidents. Les accidents demeurent. Donc il y a une transsubstantiation, changement de substance, mais les accidents de la substance ne sont pas changés. Les accidents du pain demeurent, les accidents du vin demeurent. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi les accidents ? Les accidents, ce sont les choses physiques qui peuvent être visibles avec les sens. Lorsque le prêtre prend la sainte hostie entre ses mains, l'hostie entre ses mains avant qu'elle soit sainte, avant qu'elle soit transsubstantiée par les paroles de la consécration, donc il prend une hostie qui a un poids, qui a une couleur, qui a une forme. Il peut y avoir une certaine gravure sur la gravure en relief sur l'hostie. En général, il y a un agneau divin, une croix sur l'hostie. C'est du pain. Donc c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que du pain ? Du pain, c'est de la farine. Farine mélangée à l'eau et cuite au feu, c'est tout. Bon, c'est la substance du pain, donc la substance de la farine, avec des accidents. Les accidents, c'est la couleur, c'est le poids, c'est le nombre d'hosties éventuellement dans le ciboire qu'on va consacrer, la taille de l'hostie, la taille des hosties données pour les fidèles n'est pas la même que la taille de la grande hostie utilisée par le prêtre. Ce sont les accidents. Et ces accidents ne changent pas. Au moment où le prêtre prononce les paroles de la Sainte Eucharistie, ceci est mon corps, il y a changement de substance, la substance du pain disparaît pour être remplacée par la substance du corps notre Seigneur Jésus-Christ par la force du sacrement. Par concomitance, il y a également le sang, l'âme et la divinité, j'ai déjà expliqué. Mais les accidents ne changent pas. Les accidents ne changent pas. Pourquoi? Il y a toujours la même couleur, le même nombre d'hosties, la même quantité, la même qualité, la même marque, par exemple, sur l'hostie. Et ça ne change pas. Donc, sauf dans le cas de miracle eucharistique. Quand il y a un miracle eucharistique, ça veut dire qu'il y a également un changement des accidents. Bon, on connaissait tous le miracle de l'Anciano. Tous en ont parlé de ce miracle eucharistique. Il y en a eu plusieurs dans l'histoire de l'Église. Donc le corps, l'hostie consacrée, est devenu extérieurement un bout de chair humaine. En fait, un bout du myocarde cardiaque de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire du muscle, le muscle du cœur. Vous voyez? Mais il est évident que dans en cas de miracle eucharistique, le prêtre ne va pas consommer la chair humaine de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que justement à cause du miracle. Par contre, le bon Dieu, pour que les chrétiens ne soient pas accusés d'anthropophagie, a voulu qu'il y ait un changement de substance sans qu'il y ait changement des accidents. Donc les accidents sont toujours les mêmes. Donc c'est vraiment une hostie que vous recevez. Si vous la goûtez, même consacrée, il y a toujours le goût du pain. Il y a la couleur du pain, l'aspect extérieur du pain, mais ce n'est plus la substance du pain, c'est la substance du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, évidemment, il faut la foi. Et c'est la même chose avec la deuxième consécration. Au moment de la présence, au moment des paroles de la consécration, la substance du vin, le vin c'est quoi? C'est du jus de vigne, du jus de raisin fermenté. La substance du vin disparaît, est remplacée par la substance du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme la substance du pain a disparu et est remplacée par la substance du corps de notre Seigneur Jésus-Christ, mais de même que les accidents du pain demeurent, les accidents du vin demeurent. Quels sont les accidents du vin? La couleur, il peut y avoir un vin noir, un vin rouge, un vin blanc, un vin rosé. La quantité, il peut y avoir quelques gouttes de vin ou un peu plus de vin dans le calice. Le degré d'alcool peut changer. Il peut y avoir un vin à 7 degrés ou un vin à 12, 13 degrés, comme le vin qu'on utilise dans les pays très chauds pour éviter la corruption du vin. C'est un vin avec un fort pourcentage d'alcool. Bon, mais ça, c'est ce qu'on appelle les accidents. Mais ces accidents ne changent pas. Donc, même après les paroles de la consécration, le vin, le sang garde toujours l'apparence extérieure du vin, le goût extérieur du vin, la couleur du vin, le degré d'alcool du vin. Et donc, en consacrant le pain, notre Seigneur le transforme en son propre corps sous les apparences du pain dont la substance disparaît remplacée par celle du Christ. Donc, deuxièmement, comme le pain, la Sainte Eucharistie enlève la faim, nourrit et soutient la vie, satisfait, réjouit. Donc, mais réjouit donne une joie spirituelle que seul notre Seigneur Jésus-Christ peut donner. Saint Cyril dit que ce n'était plus la manne, mais le Fils unique de Dieu, le vrai pain, substance du Père, qui nous rend la vie et délivre nos corps de la corruption. De la même façon que le pain physique permet au corps de survivre, le pain eucharistique permet à l'âme de survivre et donne une vie spirituelle, une joie spirituelle, une certaine participation à la gloire de Dieu. Donc le pain de vie auquel notre Seigneur Jésus-Christ fait allusion, ce pain de vie fait allusion à l'arbre de vie qu'on trouve dans le texte de la Genèse, donc l'histoire d'Adam et Ève, car ce bois, par son propre fruit, aurait donné la vie à Adam au paradis, en bas de la page 7. Et cette vie aurait été prolongée plusieurs milliers d'années jusqu'à ce que Dieu transporte Adam et Ève sans mourir du paradis terrestre au ciel. Mais c'est ce qu'aurait voulu Dieu, mais malheureusement, Adam et Ève ont tout gâché par le péché originel. Cette vie aurait été forte et pleine de santé, sans maladie ni vieillissement, joyeuse et heureuse, qui aurait chassé toute tristesse et toute mélancolie. Oui. Donc, il y a une partie mystérieuse là-dedans, parce qu'on a parfois un petit peu de mal à comprendre ça. Donc, il semblerait, d'après ce texte ici des Pères, j'espère que je ne dis pas une hérésie en disant ça, que si Adam et Ève n'avaient pas prévariqué, n'avaient pas désobéi, après un certain temps sur la terre, ils seraient allés au ciel directement. Donc ils seraient passés du paradis terrestre au paradis céleste. Mais est-ce qu'ils auraient eu des enfants s'il n'y avait pas eu le péché originel? Je ne sais pas si les pères de l'Église ont répondu à cette question. D'après le texte ici, il semblerait que non, là je ne suis pas sûr de moi, parce qu'à ma connaissance, moi je ne connais pas tout, Je ne pense pas que l'Église ait répondu à cette question. Puisque les enfants d'Adam et Ève, surtout Sem, Cam et pardon, les enfants d'Adam et Ève, à savoir Caïn et Abel, ne sont arrivés qu'après le péché originel, et pas avant. Alors on ne sait pas très bien. Donc, il faut bien comprendre que, de même que Dieu aurait voulu donner à Adam et Ève une vie sans tristesse, sans mélancolie, avec une pleine santé, sans maladie, ni vieillissement, une vie joyeuse et heureuse, eh bien, c'est analogiquement ce qu'on obtient par la Sainte Eucharistie. Si on avait la foi à la Sainte Eucharistie, à chaque fois qu'on reçoit la Sainte Communion, on devrait avoir cette joie de vivre, cette joie spirituelle que Dieu seul peut donner. Rappelez-vous, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est les fruits du Saint-Esprit. Et le premier, c'est la charité, la paix et la joie. D'accord ? Donc, la Sainte Eucharistie communique une vie non seulement prolongée, mais éternelle, soutenant l'âme et le corps. Donc, quelqu'un qui communie avec dévotion, en état de grâce, obtient déjà une participation directe au paradis en son âme. L'âme qui vient de recevoir la Sainte Eucharistie devient un tabernacle vivant. Ainsi, c'est pour ça que certains saints, comme Sainte Catherine de Sienne ou Saint Jean Abbé, vécurent pendant longtemps sur la seule Eucharistie. S'il y a un élément que j'ai trouvé, je ne sais plus trop où, je l'ai trouvé dans Thierrier ou Cornelius Lapide, je ne me rappelle plus, l'empereur Louis le Pieux, pendant sa dernière maladie, jeûna pendant 40 jours, ne se nourrissant que la Sainte Eucharistie quotidiennement. Louis le Pieux, c'était le fils de Charlemagne. Il était empereur d'Occident de 814 à 840. Donc Charlemagne, il n'est pas canonisé, strictement parlant. Cependant, Sainte Jeanne d'Arc, dans une vision, a parlé de Saint Charlemagne. Car Charlemagne, je crois, Saint Charlemagne a été canonisé par un antipape, si mes souvenirs sont exacts, mais l'Église a toléré son culte. Donc on a le droit de considérer Charlemagne comme un saint, un très très grand empereur, qui avait un grand amour de Dieu, un grand amour de l'Église, et qui avait parfaitement compris le rôle social de l'Église. Donc il est mort en 840. Passons à la page 8, donc on avance dans ce texte. Encore une fois, je vous conseille beaucoup à la fin des cours de relire, au moins minimum relisez les versets de l'Écriture sainte que j'ai commentés. Vous voyez, pour vous mettre, il faut relire plusieurs fois ces versets de l'Écriture sainte. Les anciens lisaient beaucoup la Bible, beaucoup plus les évangiles, beaucoup plus que nous. Vous voyez, donc on peut relire plusieurs fois chaque verset de l'Écriture sainte, surtout les versets de l'Évangile, pour se les mettre dans notre âme. Placé dans notre intelligence. On passe à la page 8, versets 41 à 46. Les Juifs murmuraient donc à ce sujet, parce que Jésus avait dit : Je suis le pain vivant qui suis descendu du ciel. Et il disait : N'est-ce pas là Jésus, fils de Joseph, dont nous connaissons le père et la mère ? Comment donc est-il, dit-il, je suis descendu du ciel ? Mais Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Donc que quelqu'un a vu le Père, ce n'est celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. » On voit très bien, ces textes sont comme extrêmement élevés, sont difficilement compréhensibles, surtout par les Juifs qui n'avaient pas encore tout compris, qui connaissaient mal leur catéchisme. N'oubliez pas que le catéchisme va être explicité plus tard. C'est surtout le Concile de Trente, en fait, qui va expliciter tout ça. Bon, au fur et à mesure des temps qui sont passés, il y a une explication de catéchisme qui a été de plus en plus complète, mais les Juifs, autant notre Seigneur Jésus-Christ, ne connaissaient pas encore tout ce que nous connaissons sur la foi catholique, parce que notre Seigneur Jésus-Christ était en train d'expliquer tout ça, justement. Il va beaucoup parler en parabole. Donc, il y avait un père dans les cieux, le commentaire des pères de l'Église, il y avait un père dans les cieux, et il s'est choisi une mère sur la terre. Il est né sans mère dans le ciel et sans père sur la terre. Et un grand mystère, une très belle phrase des pères de l'Église. Un père dans les cieux, mais pas de père sur la terre. Une mère sur la terre, mais pas de mère au ciel. La mère sur la terre, c'est la Sainte Vierge Marie. Mais notre Seigneur Jésus-Christ est arrivé dans le sein très pur de sa Sainte Mère, donc il avait une véritable mère sur la terre, mais sans père, sans intervention, la semence masculine. Notre Seigneur Jésus-Christ est né, est arrivé dans le sein très pur de notre Sainte Vierge Marie, tout en respectant la virginité de notre Sainte Vierge Marie, donc elle est vraiment vierge avant, pendant et après après la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment un dogme de foi essentiel. Ne cherchez point à savoir et à juger qui est attiré et qui ne l'est pas. Pourquoi Dieu attire celui-ci plutôt que celui-là? Si vous ne voulez pas vous égarer, contentez-vous d'entendre cette vérité, vous n'êtes point encore attiré, priez Dieu pour qu'il vous attire. Si donc celui qui est attiré vient malgré lui, n'a point la foi. S'il n'a point la foi, ne vient pas. On touche à un grand, grand mystère. Notre Seigneur Jésus-Christ n'attire pas toutes les âmes de la même façon. Chaque âme est différente, chaque âme a des grâces particulières et il y a des âmes que notre Seigneur Jésus-Christ va choisir de façon toute particulière. Notre Seigneur Jésus-Christ pratique un élitisme extraordinaire. Il va choisir à part, séparer ses apôtres et les 72 disciples aussi du reste des hommes. C'est très clair, c'est encore plus clair chez les apôtres bien sûr. Il faut pas se décourager, mais en même temps, tout mettre entre notre Seigneur Jésus-Christ. Si j'ai gardé la foi, c'est grâce à Dieu. Si j'ai perdu la foi, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Alors pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné à nous, peut-être à ceux qui m'écoutent sur Internet, la grâce de la foi catholique et qu'il ne l'a pas donnée à d'autres? Un grand mystère, un grand mystère. Pourquoi est-ce que le bon Dieu a permis que je conserve la foi alors que tous les prêtres de l'Église de Vatican II autour de moi, apparemment, tous perdu la foi? Pourquoi est-ce que j'ai pu la conserver? Non pas par ma valeur personnelle, parce que le bon Dieu a eu pitié de moi d'une certaine façon. Pourquoi? Grand mystère. C'est vrai, il faut se maintenir dans l'humilité. Seigneur, gardez-moi dans l'humilité, parce que sans votre grâce, ici ce soir, je suis capable de me faire juif ou mahométan, disait Saint Philippe Néri. Donc il faut se maintenir dans la vertu d'humilité. Sans notre Seigneur Jésus-Christ, on ne peut absolument rien faire. Donc il faut s'accrocher à la foi, pas chercher à tout comprendre. Vous voyez, le chrétien moderne a toujours tendance à poser beaucoup trop de questions, on veut tout comprendre, mais c'est pas possible de tout comprendre. Il n'est pas possible qu'avec notre petite intelligence, grosse comme un pois chiche, on puisse comprendre l'intelligence divine, énorme, de notre Seigneur Jésus-Christ. On a voulu qu'un petit grain de poussière que nous sommes puisse comprendre l'intelligence divine. Vous voyez ? Et quand nous serons au paradis, nous serons immergés dans cette lumière divine qui nous donnera une compréhension pas totale, mais au moins beaucoup plus largement supérieure à celle que nous avons aujourd'hui de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, on comprend notre Seigneur Jésus-Christ par la foi. Rappelez-vous qu'au ciel, il n'y a plus de foi. Il n'est pas nécessaire d'avoir la foi au ciel, puisqu'on verra notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le fait que nous soyons obligés de passer par la foi catholique, l'espérance catholique pour avoir la charité, nous bloque un peu. Au ciel, il n'y aura plus nécessité d'avoir la foi, l'espérance, j'ai déjà expliqué. Donc, la charité va pouvoir se développer de façon extraordinaire. Alors qu'ici-bas, sur la terre, la charité est en quelque sorte limitée par la foi, puisque la charité est la forme de la foi. Donc il y a un rapport entre la foi et la charité, mais la charité ne peut pas être parfaite ici-bas, parce qu'on est encore lié par le corps. C'est comme, si vous voulez, quelque chose qui nous pousse vers le sol, vers la terre. C'est pour ça qu'il y a en nous ce combat spirituel terrible, comme disait Saint Paul, qui disait « Je suis tenté de faire ce que je ne veux pas faire, et je n'arrive pas à faire ce que je voudrais faire. » Voyez. En effet, disent les pères, ce n'est pas en marchant que nous approchons de Jésus-Christ, mais en croyant. Une belle phrase. Ce n'est pas en marchant qu'on s'approche de notre Seigneur Jésus-Christ, mais en croyant. Ce n'est point par un mouvement de notre corps, mais par la volonté de notre cœur. La foi ne suffit pas. On peut avoir la foi. Il y a beaucoup de gens qui ont la foi. Je connais des tas de gens autour de moi qui ont la foi. Je leur demande, est-ce que vous êtes catholique? Oui, je suis catholique. Mais ils n'ont pas la charité. Parce qu'ils ne sont jamais confessés, parce qu'ils ne veulent pas se confesser, parce qu'ils ne veulent pas changer de vie. Vous voyez, je le vois très fréquemment, surtout avec des gens qui viennent une fois à la messe chez nous, emmenés par des amis, puis ils viennent une fois, ils aiment bien la messe, oui c'est beau, c'est respectueux, c'est spécial, mais ils ne viennent pas. Puis quand les amis qui m'ont amené certaines de leurs connaissances à la messe, quand ils demandent à leurs connaissances, mais pourquoi vous revenez pas? Ils n'ont pas de réponse. En fait, la réponse est toujours la même. Hein. C'est qu'ils se rendent très bien compte, ils comprennent très vite, ils ne sont pas bêtes. Hein. Ils comprennent très vite, hein, si je reviens à cette messe traditionnelle, là, il va falloir que je change, parce que c'est le catéchisme traditionnel. Or, il y a un problème d'ordre matrimonial dans ma vie privée. Et si je reviens, je vais être obligé de régler ça. Et je ne veux pas régler ça parce que je vis avec la femme de mon prochain. Je n'ai pas d'intention du tout d'abandonner cette femme qui n'est pas la mienne. Et je veux garder ma concubine. Alors là, évidemment, si monsieur veut garder sa concubine, eh bien, il ne peut pas se convertir. C'est pas possible. Tant qu'il garde sa concubine, il ne peut pas se convertir. C'est pour ça que malheureusement, dans certains cas, d'ailleurs, on le voit très bien, les gens ne sont pas bêtes, hein, ils le savent, et souvent ils viennent aux messes, et puis je propose toujours, dis, est-ce que vous souhaiteriez vous confesser? Non, non, pas encore. En général, quand ils me disent non, non, pas encore, bon, c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas encore prêts, mais c'est très souvent aussi parce qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas se confesser, parce que leur situation matrimoniale n'est pas celle qu'ils devraient être. D'accord? En effet, disent les pères, ce n'est pas en marchant que nous approchons de Jésus-Christ, mais en croyant. Ce n'est point par un mouvement de notre corps, mais par la volonté de notre cœur. C'est donc par la volonté que nous sommes attirés. Comment sommes-nous attirés par la volonté? Mettez vos délices dans le Seigneur et il vous accordera ce que votre cœur demande. Comme l'aimant n'attire que le fer, ainsi Dieu n'attire que ceux qui sont prêts, qui utilisent leur libre arbitre correctement, se rendant dignes de la grâce de Dieu. Donc il faut, c'est le texte de Joël du début du carême, convertissez-vous au Seigneur parce qu'il est bon. Patient et riche en miséricorde. Convertissez-vous au Seigneur. Mais pour pouvoir se convertir au Seigneur, ça veut dire convertir, se tourner vers. Donc pour nous tourner vers le Seigneur, il faut d'abord que notre Seigneur Jésus-Christ nous ait donné une grâce prévenante pour que nous puissions nous convertir vers lui. On ne peut pas se tourner vers Dieu sans que Dieu nous ait donné une grâce qui nous permette de nous tourner vers lui. Donc on ne peut pas se convertir à Dieu sans que Dieu soit d'abord penché sur notre misère pour nous donner les grâces de préparation qui nous amènent à la conversion. Et Dieu n'est pas tenu de donner ces grâces de conversion à tout le monde. Parce que si Dieu donnait ces grâces de conversion à tout le monde serait sauvé, ce qui n'est pas le cas. Vous voyez? Ça, c'est une belle phrase des pères. Comme l'aimant n'attire que le fer, ainsi Dieu n'attire que ceux qui sont prêts, qui utilisent leur arbitre correctement, se rendant dignes de la grâce de Dieu. Mais attention, pour se rendre digne de la grâce de Dieu, pour pouvoir utiliser correctement notre libre arbitre et se rapprocher de Dieu, il faut déjà avoir reçu certaines grâces positives, grâces actuelles. On ne peut pas se convertir par la propre force, ce n'est pas possible. Pour se convertir, il faut que Dieu ait eu pitié de nous, se soit penché vers nous et nous ait donné ses grâces. Et c'est un peu un cercle. Les gens nous disent, mais c'est un cercle vicieux. Non, ce n'est pas un cercle vicieux. Je ne peux pas me convertir sans la grâce du bon Dieu. C'est pour ça que Dieu donne des grâces actuelles à des gens qui sont rentrés dans le péché mortel. Parce que si le bon Dieu ne donnait pas ces grâces actuelles, personne ne pourrait sortir du péché mortel. Pour sortir du péché mortel, il faut avoir certaines grâces actuelles qui vont me permettre de sortir du péché mortel. Je ne peux pas aller me confesser par mes propres forces, c'est impossible. Sinon, on va tomber dans ce qu'on appelle le pélagianisme. Donc cela doit nous maintenir dans l'humilité. Alors, Saint Jean Chrysostome, ici une note des pères. Saint Jean Chrysostome nous prévient d'être prudent dans l'interprétation de ce passage pour ne pas tomber dans le pélagianisme en disant que c'est notre propre libre arbitre qui provoque la première grâce. Attention, la grâce est un don de Dieu. Mais si on comprend que le libre arbitre agit ainsi sous l'action et l'influence d'une grâce prévenante, c'est la doctrine catholique. Donc, qu'est-ce que c'est que le pélagianisme? Pélagianisme, c'est une erreur très grave qui consiste à dire que littéralement, je peux obtenir la grâce du bon Dieu à la force du poignet. Je me mets moi-même sur le chemin qui mène à la grâce du bon Dieu. C'est pas possible. Vous voyez? L'Église a condamné le pélagianisme. Alors à ce moment-là, évidemment, le démon a fait des petits en poussant les gens à croire au semi-pélagianisme. Ils disent, oui, ben, c'est le bon Dieu qui fait le travail, mais je travaille avec le bon Dieu, donc c'est ma volonté qui travaille avec celle du bon Dieu ensemble pour me mettre sur le bon chemin. Non. Parce que pour que ma volonté puisse travailler avec celle de Dieu pour me mettre sur le bon chemin, il faut déjà que j'ai reçu de mon Dieu une grâce. Relisez le traité de saint Thomas d'Aquin sur la grâce. C'est très humiliant. Quand on étudie le traité de saint Thomas d'Aquin sur la grâce, il ne reste plus grand-chose de la volonté humaine. Hein. Mais tout est un don de Dieu. Hein. Donc, ce n'est pas le libre arbitre qui provoque la première grâce, sinon on tombe dans le protestantisme. le libre arbitre agit sous l'action et l'influence d'une grâce prévenante. Cette grâce prévenante correspond en fait à une grâce actuelle. Une grâce actuelle qui amène l'âme, qui amène la volonté et l'intelligence à accepter l'influence divine. C'est pour ça qu'on le voit très bien. Moi, je le vois très bien quand je prêche les exercices satiniens, quand je prêche les retraites. Les gens, plusieurs personnes qui suivent la retraite en même temps, il y en a certains qui vont se convertir, mais pas d'autres. Pas d'autres. Ça m'est arrivé, c'est très triste, mais c'est comme ça, on ne peut rien faire contre ça, il faut prier pour ces gens-là. Après une retraite, on a eu plusieurs personnes qui faisaient la retraite, plusieurs personnes qui faisaient la retraite et qui n'étaient pas catholiques, et qui n'avaient pas pratiqué depuis des années et des années, qu'en fait, qui n'avaient jamais pratiqué, et elles se sont toutes converties, sauf une ou deux qui n'ont pas voulu se convertir. Les autres ont eu la grâce pour régulariser leur situation, changer de situation, parfois il y a beaucoup de choses à changer, mais il y en a un ou deux qui n'ont pas accepté la grâce ou qui n'ont pas reçu cette grâce. Bon. C'est pour ça qu'il faut se maintenir dans l'humilité. Hein. Si j'ai conservé la foi, c'est grâce à Dieu. Alors pourquoi est-ce que le bon Dieu a eu pitié de moi et pas eu pitié de la même façon du voisin? Ça, c'est un grand, grand mystère. Un grand mystère, on touche là au mystère le plus invraisemblable, le mystère de la prédestination. La prédestination, c'est ça. Dieu sait tout. Il sait que je serai sauvé, que je serai damné. Cependant, si je me damne, c'est de ma faute. Si je me sauve, c'est grâce à Dieu. Je ne peux pas dire, je me sauve grâce à mes propres forces. C'est moi qui, à la force du poignet, me suis placé dans une voie qui mène vers Dieu. Non, là, c'est le pélagianisme. On ne peut pas enseigner ça. Dieu donne les grâces à qui il veut, comme il veut, dans les circonstances qu'il a choisies. Bien se maintenir dans l'humilité. Passons à ce autre paragraphe ici. Versets 47 à 51. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi la vie éternelle, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Voici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. C'est une répétition de ce que notre Seigneur Jésus-Christ a déjà expliqué. Donc, en page 9, en haut de la page, « Mangez donc spirituellement ce pain céleste, apportez l'innocence au Saint-Autel. Tous les jours, vous péchez, mais que vos péchés ne soient pas de ceux qui donnent la mort à l'âme. » C'est pour ça que l'Église fait toujours une distinction entre le péché mortel et le péché véniel. Le péché mortel interdit l'usage de la Sainte Eucharistie, alors que le péché véniel permet l'accès à la Sainte Eucharistie. S'il fallait être parfait, sans aucun péché véniel pour communier, eh bien, on ne communierait jamais. Donc, attention à ces, vous voyez, ces passages sont d'une très grande beauté. Il faut les méditer. Et donc, relisez tous ces magnifiques passages sur le pain de vie. Jésus dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura pas faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et puis au verset de 52, c'est un peu la même chose, dit sur une autre façon. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Bon, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Ça veut dire que j'ai déjà en moi la vie éternelle. C'est ça que ça veut dire. La Sainte Eucharistie donne une participation à la vie éternelle. C'est pas une vie éternelle qui dure tout le temps, c'est une participation au paradis. C'est pour ça qu'il est plus facile d'expliquer en disant la Sainte Eucharistie donne un paradis temporaire dans notre âme. Si je dis la Sainte Eucharistie me donne la vie éternelle, il y a une espèce de contradiction parce que la vie éternelle qui est en moi par la Sainte Eucharistie ne va pas être éternelle si j'ai malheur de commettre un péché. Au moment où je commets un péché, ben je vais perdre cette vie éternelle qui est en moi par la Sainte Eucharistie. Donc il vaut parfois mieux expliquer les choses de façon un petit peu différente, en disant j'ai un paradis en moi. Et ce que j'explique quand je prépare les enfants à la première communion, quand vous allez communier, vous allez avoir le paradis en vous. Mais c'est un paradis qui ne va pas durer éternellement, parce que malheureusement, si vous avez le malheur de commettre une faute grave, et bien par cette faute grave, bien, vous allez perdre ce paradis, et notre Seigneur Jésus-Christ va partir. Vous voyez ? C'est ça que notre Seigneur Jésus-Christ termine en disant « Je suis le pain vivant qui suis descendu du ciel ». C'est la raison pour laquelle, on verra ça la prochaine fois, un certain nombre de fidèles vont à ce moment-là quitter notre Seigneur Jésus-Christ. Ces paroles sont dures à entendre. Dès lors, beaucoup de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. C'est verset 67 que nous verrons après. Voilà, je vais terminer ici parce que ça fait déjà une heure que je vous parle. Donc, nous verrons les prochains versets la prochaine fois. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père, Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il.